Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Syphilis, gonorrhée, chlamydia, les infections sexuellement transmissibles, les IST, ont d'importantes répercussions sur la santé sexuelle et reproductive des femmes et des hommes dans le monde. Il existe aujourd'hui plus de 30 agents infectieux, bactéries, virus ou parasites transmissibles par voie sexuelle. D'après l'OMS, chaque jour, plus d'un million de personnes contractent des infections sexuellement transmissibles. Et certaines, comme la syphilis, sont en recrudescence ces dernières années. Les IST, un problème de santé publique, donc dans la majorité des cas, ces maladies vénériennes s'accompagnent de symptômes bénins. La plupart se soignent facilement, mais non traitées, elles peuvent entraîner de graves complications. Le risque de développer un cancer du col de l'utérus à cause de l'infection à papillomavirus, ou plus gravement, la stérilité, conséquence directe de la chlamydiose. Le VIH, cas particulier, en 2018, plus d'1 700 000 personnes ont été nouvellement infectées par le virus du sida. Alors, quels sont les IST les plus répandus? Comment s'en protéger et se faire dépister? Comment lutter contre les tabous pour mieux soigner? Quels sont les traitements et les moyens de prévention selon les régions du monde? Tour d'horizon avec notre invité. Santé sexuelle, pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, professeur Nicolas Dupin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de dermatovénérologie à l'hôpital Cochin et directeur du centre de santé sexuelle de l'Hôtel Dieu à Paris. Nous retrouvons tout à l'heure en direct de Guinée le docteur Mohamed Massiré Souma, dermatologue, vénérologue au service de dermatologie MST du CHU de Donka de Conakry. Et en fin d'émission, la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, médecin sexologue. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, on va parler des IST. Hein? Qui a déjà entendu parler des IST? On dit IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible. Comment on attrape ça? Comment on attrape les IST? Tu n'as pas mis capote ou bien tu as mal mis capote, capote est cassée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ça, qui a donné à l'autre. Hein? Vous avez compris ça, non?
Extrait du grand reportage d'Igor Strauss sur la prise en charge des homosexuels transgenres et prostituées en Côte d'Ivoire, à écouter lundi 16 septembre dans Priorité Santé. Professeur Nicolas Dupin, peut-on commencer par rappeler quelles sont les principales IST?
Alors les principales IST sont en fait, il y a des infections, je dirais, qui sont endémiques en France depuis très très longtemps, comme l'herpès ou les papillomavirus. Probablement que c'est le premier motif, les papillomavirus, c'est-à-dire qui donnent les condylomes, c'est le premier motif de consultation pour une IST ou une maladie sexuellement transmissible. Et puis depuis une vingtaine d'années maintenant, on revoit des vieilles IST qui avaient totalement disparu à l'époque du sida et qui ont réémergé lorsque les traitements antirétroviraux ont été développés pour traiter le VIH. Il y a eu un relâchement dans les groupes les plus à risque, notamment chez les homosexuels de sexe masculin. Et on a revu des syphilis. Moi, j'ai fait toutes mes études sans voir de syphilis et on a revu des syphilis. Et malheureusement, on revoit des syphilis toujours actuellement. On voit également des infections à gonocoques, bien sûr des infections à chlamydia, soit classiques, comme chez les jeunes femmes ou chez les jeunes hommes, mais également des infections plus rares, comme on appelle maladie de Nicolas Favre. Donc je dirais que ces IST sont actuellement sous les feux de l'actualité.
Alors il y a beaucoup d'idées reçues sur la transmission des MST. Comment est-ce qu'on peut contracter ce type d'infection?
D'abord, tous les agents microbiens ne sont pas transmissibles de la même façon. On ne se transmet pas et on ne s'infecte pas de la même façon, fort heureusement, pour le VIH que pour d'autres infections comme le tréponème qui donne la syphilis. On peut dire que, par exemple, pour la syphilis, tout rapport, dès qu'il y a un contact avec une muqueuse qui est porteuse, je dirais, du germe, il y a un risque d'infection. C'est-à-dire que tout type de rapport, même un rapport bucogénital, peut permettre de transmettre le tréponème. Ce qui est moins vrai par exemple pour le VIH, où on considère que ce rapport est moins à risque de transmission du VIH. Donc dès qu'il y a contact, il peut y avoir contact intime et répété, il peut y avoir transmission. On peut avoir transmission des papillomavirus, et on voit bien chez les jeunes femmes qui commencent à avoir des rapports sexuels, les premières études qui remontent maintenant à une vingtaine d'années montraient que dès les premiers rapports sexuels, on va être en contact avec les virus des papillomavirus qui donnent ces petits condylomes. La majorité des gens vont l'éliminer, puis une petite partie, une petite proportion de la population va être infectée de façon durable et faire des petites tumeurs qu'on appelle des condylomes, et d'autres, malheureusement, plus tard, feront des cancers, mais on reviendra dessus tout à l'heure.
Donc on peut dire que toutes les muqueuses sont concernées?
Toutes les muqueuses sont concernées, et tout rapport, dès lors qu'il y a une petite lésion ou une infection, même si elle est asymptomatique, si le germe est à l'intérieur, s'il y a un contact avec cette muqueuse, il peut y avoir transmission.
Donc est-ce qu'il y a une différence entre les IST qui se transmettent par voie sexuelle et les IST qui se transmettent par voie sanguine? Et du coup, est-ce qu'il y a une différence d'incidence sur la santé sexuelle des patients?
Alors, IST qui se transmet par voie sanguine, c'est pas véritablement une IST. C'est-à-dire que, par exemple, on connaît par exemple l'hépatite C. On s'est aperçu qu'il y avait une augmentation des épidémies d'hépatite C, par exemple, chez des homosexuels de sexe masculin qui avaient des pratiques sexuelles très à risque. En fait, on s'est aperçu que c'était probablement aussi de façon indirecte par le sang que se transmettaient ces virus. Donc on peut pas parler d'IST, de transmission sanguine. On parle, dès qu'il y a IST, c'est qu'il y a eu un rapport, quel qu'il soit, dès qu'il y a une pénétration, il y a eu donc un rapport, et c'est pas par le sang qu'on se transmet les maladies sexuellement transmissibles.
Professeur Nicolas Dupin, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est porteur d'une IST? Est-ce qu'il y a des symptômes courants?
Alors c'est tout le problème. Par exemple, si je prends les infections à chlamydia, si on prend les infections à chlamydia, on peut considérer que chez les jeunes femmes, pratiquement 80% des infections sont asymptomatiques. Chez les hommes, c'est 50% des infections à chlamydia qui sont asymptomatiques. D'où l'importance, quand on est dans un groupe à risque, c'est-à-dire que dès lors qu'on change de partenaire, dès lors qu'on a de multiples partenaires, c'est plus de deux partenaires. Hein, on peut considérer qu'on a pris des risques, il faut inciter les gens à aller se faire dépister. Et maintenant, on offre la possibilité aux jeunes femmes qui viennent dans les centres de santé sexuelle, non seulement d'avoir des prélèvements sanguins pour rechercher l'infection par le VIH ou l'hépatite B, mais également un auto-prélèvement vaginal qui permettra de rechercher à la fois le chlamydia et à la fois le gonocoque, car chez ces jeunes femmes, c'est souvent des portages asymptomatiques. Et si on le fait pas, eh ben on ne dépiste pas.
Est-ce qu'il y a quand même des symptômes qu'on peut identifier, type des pertes vaginales chez la femme ou des écoulements urétro ou des brûlures chez les hommes?
Bien entendu, quand il y a symptômes, ces symptômes, alors il y a deux syndromes pour les maladies sexuellement transmissibles. Il y a les ulcérations génitales et il y a les écoulements ou les symptômes à titre de picotement ou de brûlure. Une femme qui a des leucorrhées, c'est-à-dire des pertes qui sont blanches, qui sont jaunes, qui sont vertes et qui sont malodorantes, tout de suite, on doit se dire, attention, elle a peut-être une infection sexuellement transmissible, une infection à chlamydia, et puis il y a d'autres infections, comme les infections à trichomonas, qu'il faut savoir rechercher. Il y a des examens tout à fait adaptés pour rechercher. Et alors là, on fait un examen clinique, et on va faire des prélèvements avec des écouvillons au niveau du col de l'utérus et au niveau périurétral. Chez les jeunes hommes, on peut avoir des urétrites avec écoulement. Dès qu'il y a écoulement, tout de suite, l'arrière-pensée, c'est un écoulement, c'est comme un rhume, je dirais, au niveau de l'appareil génital, et bien cet écoulement va être analysé, et le plus souvent c'est une gonococcie. Le chlamydia peut donner des démangeaisons chez l'homme, peut donner éventuellement des picotements, mais sans forcément d'écoulement, et dès lors, très simplement, on peut faire un prélèvement urinaire. On ne fait plus le geste barbare d'aller mettre l'écouvillon à l'intérieur de l'urètre qui était redouté par tous les patients qui avaient des suspicions de maladies sexuellement transmissibles et d'urétrite. Maintenant, on fait juste un premier jet urinaire. Donc il faut bien s'assurer de ne pas avoir fait pipi avant d'aller au centre de santé sexuelle ou d'aller voir son médecin. Et on fait juste un prélèvement du premier jet urinaire et on peut rechercher, grâce à des techniques de biologie moléculaire, chlamydia, gonocoque et autres mycoplasmes.
Vous avez parlé des infections asymptomatiques, donc dont les symptômes ne sont pas visibles. Il est important, professeur Dupin, d'expliquer que l'on peut avoir contracté une IST sans présenter les symptômes de façon apparente.
Nous sommes tout à fait d'accord. C'est pour ça que il faut savoir à quel groupe à risque on appartient. Et en fonction du groupe à risque auquel on appartient, on va vous proposer, lorsque vous venez dans un centre de dépistage, c'est le dépistage des maladies, des infections sexuellement transmissibles. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant on les appelle infections sexuellement transmissibles, et qu'avant on appelait cela des maladies sexuellement transmissibles, vont être porteurs totalement asymptomatiques. Donc il faut, lorsqu'on a pris un risque, lorsqu'on a eu de multiples partenaires, lorsqu'on a eu des rapports non protégés avec un nouveau ou une nouvelle partenaire, il faut savoir que à ce moment-là on a pris un risque, et faire bien sûr des examens qui permettront, par une simple prise de sang, on peut dépister le VIH, on peut dépister l'hépatite B, on peut dépister sur certains terrains l'hépatite A, notamment chez les homosexuels de sexe masculin, qui devront être protégés. Et on voit qu'il y a beaucoup de ces infections peuvent bénéficier, l'hépatite B, l'hépatite A, les papillomavirus, peuvent nécessiter une éducation pour prévenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vaccins contre ces infections qui peuvent être sexuellement transmissibles. Et une simple prise de sang vous permettra, bien sûr, de faire le dépistage, qui, s'il est positif, vous devrez être traité comme si vous étiez symptomatique.
Professeur Dupin, on a parlé donc de certaines IST. Quelles sont les conséquences sur la santé si on ne traite pas une infection transmissible, sexuellement transmissible ?
Alors, pour par exemple, deux, c'est vraiment très très évident. L'une, c'est les papillomavirus. Le papillomavirus, quand on s'infecte, je vous ai dit, on s'infecte très rapidement, mais la plupart des gens vont guérir spontanément, vont clairer, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire éliminer le virus. Certains vont faire des condylomes. Certains, même à distance, 5, 10, 15 ans plus tard, vont peut-être être infectés par des papillomavirus oncogènes. Donc, un simple petit virus peut faire des dégâts à bas bruit. Et c'est pour ça que les jeunes femmes doivent être contrôlées. C'est pour ça qu'elles doivent avoir des frottis de façon régulière après 25 ans. Et à intervalles réguliers. Et puis surtout, c'est pour ça que les jeunes femmes, mais peut-être pas seulement les jeunes femmes, mais actuellement, les jeunes femmes devraient toutes être vaccinées quand elles sont jeunes filles, c'est-à-dire entre 11 et 14 ans, contre les papillomavirus. Donc, ces virus peuvent donner des cancers. Cancer du col de l'utérus, mais tout type de cancer. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des cancers anaux, il peut y avoir des cancers oropharyngés qui sont liés à ces papillomavirus. D'où mon incitation à véritablement étendre plus la vaccination. La deuxième maladie pour laquelle il peut y avoir des conséquences, dont on ne parle pas assez souvent, c'est les infections à chlamydia. On arrive à des prévalences, c'est-à-dire un taux trop élevé d'infections par chlamydia chez les jeunes femmes. On a, chez les moins de 25 ans dans notre centre, à peu près 8% des jeunes filles. Et quand on monte dans certains territoires, en banlieue parisienne, on peut aller jusqu'à 12-15% de ces jeunes filles qui sont porteuses de chlamydia. Or, le chlamydia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est souvent asymptomatique. C'est que les jeunes filles se plaignent de rien, mais c'est lorsque, à 30 ans, 35 ans, elles essaieront d'avoir des enfants. Malheureusement, elles ne pourront plus avoir d'enfants. Pourquoi ?
Oui, les conséquences peuvent arriver bien plus
tardivement. Bien plus tardivement. Pourquoi ? Parce que l'infection à bas bruit a fait des dégâts au niveau des trompes de l'utérus et elles deviennent stériles de façon secondaire.
Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et tout de suite, on va retrouver Kevin qui nous appelle de Guinée-Conakry. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Le professeur Nicolas Dupin vous écoute. Pourquoi vous nous appelez ?
Bon, je vous appelle. C'était à propos de ma santé sérologique. Je sortais avec une fille depuis 2016, mais notre première rencontre sexuellement, c'était en 2018. On s'est rencontrés en 2016 et notre première rencontre, c'était en 2018. Et elle est tombée malade, nous sommes partis à l'hôpital. Quand on a fait ses tests, elle était séropositif. Et j'ai eu peur et puis moi, je suis parti me dépister et j'étais séronégatif. Et tandis qu'on avait fait plusieurs rapports sexuels non protégés.
Donc oui, vous avez une question par rapport à justement le fait que votre amie soit séropositive et pas vous.
Pourquoi ma petite mère séropositive et moi je suis séronégatif.
Professeur Nicolas Dupin, qu'est-ce qu'on peut répondre à Kevin qui se demande comment lui ne peut pas avoir contracté le virus du sida ?
Alors Kevin, si je comprends bien, votre amie, vous avez eu des rapports avec elle sans qu'elle sache qu'elle était séropositive, et par la suite elle a appris qu'elle était séropositive, mais vous, vous êtes séronégatif. C'est oui. bien ça?
Oui.
Et elle n'avait pas de traitement, cette jeune femme, avant qu'elle vous ayez, quand vous avez eu des rapports avec elle. Elle n'avait pas de traitement non. contre l'infection.
Non, elle ne savait même pas.
D'accord. Alors ça peut bien sûr arriver d'avoir ce qu'on appelle un couple discordant. On peut être, il y a quelques personnes qui restent, je dirais, totalement résistants à l'infection par le VIH. Et puis on a dans des couples qui ont des rapports réguliers, effectivement, la possibilité d'avoir un couple, une personne qui est infectée et une autre qui n'est pas infectée. Afin de le maintenir, cet état-là, ce que l'on sait, c'est que lorsque dans un couple il y a un qui est séropositif et un autre qui est séronégatif, il est très important que celui qui est séropositif prenne un traitement, parce qu'on sait maintenant que si la charge virale, c'est-à-dire si le taux du virus qui circule dans le sang est négatif, alors le risque de transmission est voisin de zéro. Et il faut s'assurer, bien entendu, que le partenaire prend bien le traitement afin de diminuer de façon drastique l'infection par le VIH. Voilà.
Kevin, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Oui, effectivement. Et j'ai une autre question encore.
Oui.
Est-ce que c'est possible que je puisse transmettre le virus à quelqu'un d'autre? Si moi, je ne peux pas me faire.
Alors, si vous êtes séronégatif, ça veut dire que vous n'avez pas contracté l'infection, vous n'avez pas été infecté par le virus VIH, donc il n'y a pas de, normalement, possibilité que vous transmettiez le virus si vous êtes resté séronégatif. En sachant que vous êtes séronégatif, tant que vous n'avez pas encore séroconverti, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore les anticorps. Donc si vous avez des rapports quand même non protégés avec cette personne qui est, elle, séropositive, il faut qu'elle prenne un traitement afin d'éviter de vous contaminer. Et vous, si vous restez séronégatif, normalement, il n'y a pas de risque que vous contaminiez une autre personne.
Merci beaucoup Kevin pour votre question. On vous souhaite une bonne journée à Conakry. Professeur Dupin, ce qu'on comprend notamment avec cette question, c'est qu'il est finalement indispensable de prévenir son partenaire lorsqu'on a été détecté.
C'est plus qu'indispensable. C'est d'abord un devoir vis-à-vis de son partenaire, effectivement, quelle que soit la maladie sexuellement transmissible. Et c'est quelque chose qu'on fait un peu systématiquement en termes d'éducation auprès du patient ou de la patiente qui a une infection sexuellement transmissible, c'est prévenir votre partenaire que vous avez cette infection sexuellement transmissible. Ça a d'autant plus de conséquences. Si c'est le VIH, vous pouvez imaginer les conséquences que ça peut avoir. Mais même une infection par la syphilis ou une infection par la chlamydia, le partenaire ou la partenaire doivent être prévenus et doivent être traités.
C'est parfois délicat d'en parler. Alors, parce que souvent c'est un sujet qui est vécu comme une honte.
Je pense que c'est une des choses les plus délicates et c'est vrai qu'effectivement, c'est une des choses, la notification au partenaire est une des choses les plus complexes. Faire porter la culpabilité de l'infection et en plus penser qu'on a contaminé et penser éventuellement que la personne va pouvoir avoir des conséquences du geste que vous avez pu avoir vis-à-vis d'elle, c'est important. Mais c'est aussi prévenir son partenaire ou sa partenaire, c'est peut-être elle ou il qui vous a aussi contaminé. Donc je pense que c'est quand même assez important d'essayer de bien faire comprendre au patient ou à la patiente que c'est une démarche vis-à-vis de la personne avec laquelle on vit.
Tout de suite, on va retrouver Juriste qui est à Cotonou, au Bénin. Bonjour Juriste.
Oui, bonjour.
Bonjour Raphaël,
bonjour.
On vous écoute.
Bon, il y a environ 6 ans de cela, lors de mon premier rapport sexuel, j'ai contracté du chlamydia. Bon, je ne savais pas, mais bon, après, lors d'une mixtion, j'ai constaté un liquide visqueux et je suis allé consulter. On m'a donc diagnostiqué du chlamydia. Alors, j'ai pris d'abord la doxycycline, ça n'a pas marché, et je suis allé revoir le médecin, il m'a aussi ajouté des procaïphènes. Après avoir suivi le traitement, les symptômes avaient disparu. Bon, sauf que depuis maintenant 3 ans, c'est réapparu. Je suis encore allé consulter, on m'a aussi... j'ai reconduit le même traitement pendant 6 mois et les symptômes avaient plus ou moins diminué. Mais n'est plus constant comme avant. C'est-à-dire que parfois, je peux avoir ce liquide-là qui ressort, et parfois non, alors qu'avant, au début, c'était systématique. Bon, j'écoute souvent vos émissions, donc je sais que ça peut être une maladie qui est devenue chronique, et je sais plus ou moins les conséquences que j'en cours. Donc, je voudrais savoir en réalité où est-ce que j'en suis. Est-ce qu'il y a encore des traitements qui pourraient que je pourrais prendre pour guérir? Ou est-ce qu'il faut que je m'inquiète parce que à terme, c'est la stérilité, donc je flippe un peu.
Merci beaucoup, juriste, pour cette question. Professeur Dupin, finalement, l'idée, c'est de savoir comment se débarrasser définitivement de cette IST, même après une prise d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Juriste nous explique que la présence de la chlamydia est toujours là.
Alors, il faut, on peut pas détailler tout, mais il faut essayer d'interpréter ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il a eu une infection à chlamydia, il a eu un traitement antibiotique qui est un traitement efficace contre le chlamydia, dans plus de 95% des cas. La doxycycline, si elle est prise suffisamment longtemps, c'est-à-dire que c'est au moins 7 jours, un comprimé matin et soir pendant 7 jours, permet de traiter la plupart des gens. Ce qu'il faut voir, c'est, ce sont des infections, et la plupart de ces infections sont sexuellement transmissibles, ne sont pas immunisantes. En ça, on peut très très bien se recontaminer. Donc il faut s'assurer non seulement qu'il a été bien traité une première fois, et puis s'il a de nouveau des nouvelles partenaires, s'assurer que ces nouveaux ou ces nouvelles partenaires ont été traités et qu'elles ne sont pas elles-mêmes infectées à nouveau par le chlamydia, puisque dans ce cas-là, elles risquent de le recontaminer. Donc ça, c'est une chose importante. On regarde sa sexualité, on regarde le nombre de partenaires qu'on peut avoir et on s'assure que les partenaires ne sont pas elles-mêmes infectés. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des infections chroniques, mais c'est rare avec chlamydia. Alors, il faut s'assurer d'abord que c'est bien le chlamydia qui est encore en cause, c'est-à-dire faire des prélèvements, être certain que c'est une infection à chlamydia. Et en ça, il faut bien sûr faire un prélèvement au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, du premier jet urinaire. S'il y a du chlamydia, bah, il faut retraiter et puis s'assurer qu'éventuellement, il ne peut pas y avoir des foyers d'infection. Parfois, chez l'homme, au niveau de la prostate, une prostatite chronique peut éventuellement être un foyer qui héberge le chlamydia et entraîner une petite résistance qui nécessitera un traitement prolongé. Donc, je pense que tous ces examens sont nécessaires, mais surtout, je m'interrogerai sur le ou la ou les partenaires de juristes pour savoir si il n'est pas impossible qu'ils se recontaminent.
Juriste, est-ce qu'on a répondu à vos interrogations?
Oui, bon, juste une gamme à préciser une chose. Justement, le professeur parlait de prostaturée chronique. Lorsque j'ai fait les examens après les 2 ans, au moins je constatais la réapparition des symptômes. Le médecin m'avait justement diagnostiqué ça et on avait aussi fait une touchée rectale et tout ça. Bon, c'est après qu'on a reconduit le traitement. Mais bon, je voulais quand même préciser ça.
J'ai bien compris. Alors, quelquefois, il faut prolonger et éventuellement changer d'antibiotiques ou faire des combinaisons d'antibiotiques.
Merci beaucoup, en tout cas, juriste, pour votre question. Et on vous souhaite une belle journée à Cotonou. Et tout de suite, un autre auditeur, Ibrahim, qui, lui, nous appelle du Burkina. Bonjour, Ibrahim. Et
bonjour, Raphaël. Bonjour, docteur.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute.
D'accord. En fait, quand j'étais au collège en 2008... J'ai été dépisté au syphilis lors d'une campagne au lycée. Alors, donc, le médecin m'avait conseillé de faire un traitement à la pénicilline. Donc, j'avais fait 10 émissions à intervalles de 2 semaines comme ça. Maintenant, je suis marié l'année passée. Je souhaiterais peut-être avoir des enfants. Donc, je voulais comprendre, est-ce que le syphilis que j'ai connu, ça peut avoir un impact sur ma progéniture, alors qu'à l'époque, je n'avais pas encore une vie sexuelle, mais bon, j'étais quand même vraiment un peu inquiété. Sans pas de rapport, mais j'étais infecté, je ne sais pas quelles sont les causes de mon infection, et puis est-ce que je peux avoir un impact sur ma progéniture.
Si je comprends bien, Ibrahim, vous voulez savoir si la syphilis peut vous rendre stérile, c'est ça?
C'est ça. Tout à fait.
Professeur Dupin.
Alors, la syphilis peut faire beaucoup de choses. On l'appelle la grande simulatrice, mais c'est pas une infection, contrairement au chlamydia, qui peut avoir des conséquences sur la fertilité par la suite et la fécondité. La syphilis en elle-même n'est pas une bactérie qui a pour conséquence de pouvoir vous rendre stérile. Je peux vous rassurer là-dessus.
D'accord.
Est-ce qu'on a répondu à votre question, Ibrahim?
Très bien. Est-ce que quelles sont les causes de cette maladie? Parce que je n'ai pas à l'époque une initiative sexuelle, mais bon, je l'ai attrapé, ça m'a surpris quand même.
Alors, la cause de la syphilis, c'est une infection qui s'appelle treponema pallidum, qui se transmet assez facilement lors d'un rapport sexuel, mais tout type de rapport, c'est-à-dire un rapport bucogénital, voire oro-oral, même s'il y a un contact entre les deux muqueuses, on peut éventuellement contracter la syphilis. Donc, cette infection donne des symptômes, qui se caractérise par une petite ulcération qu'on appelle le chancre, puis après des éruptions cutanées. Mais comme toutes les maladies sexuellement transmissibles, toutes les infections sexuellement transmissibles, on peut ne pas avoir de symptômes du tout. Et donc s'apercevoir qu'on a eu la syphilis au moment où on fait une prise de sang qui détecte la présence d'anticorps contre le tréponème, c'est-à-dire l'agent de la syphilis. Puis il faut savoir également en Afrique, il y a ce qu'on appelle les tréponématoses endémiques qui ne sont pas la syphilis, qui donne aussi des tests positifs. Donc on peut aussi se poser la question de savoir si, comme vous l'expliquez au début, on m'a fait une prise de sang et on m'a détecté que j'avais la syphilis. Attention, c'est peut-être un faux positif de la sérologie et que vous n'avez pas eu la syphilis, d'autant plus que vous dites que vous n'aviez pas eu le rapport sexuel à l'époque, et peut-être que vous aviez simplement des marqueurs d'une infection endémique en Afrique, comme aussi en Amérique du Sud, qu'on appelle les tréponématoses endémiques. Et là, on n'a pas tellement de moyens de différencier ces infections de la syphilis.
Merci beaucoup Ibrahim pour votre appel, votre témoignage. On vous souhaite une belle journée au Burkina. Tout de suite, professeur Dupin, je voudrais poser une question d'une auditrice, Maya, qui est à Bamako au Mali et qui s'interroge, qui nous dit « Depuis que je suis une fille, depuis que je suis fille, j'ai de l'herpès. Je voulais savoir si on a de l'herpès dans la bouche, est-ce qu'on peut le transmettre pendant les rapports? Comment savoir que c'est de l'herpès ?»
Alors, j'explique toujours à mes étudiants qu'il y avait deux types d'herpès. Il y a l'herpès au-dessus de la ceinture qui était HSV1, qui donnait l'herpès buccal, et l'herpès en dessous de la ceinture qui donnait l'herpès génital, qui était HSV2. Or, on s'est aperçu maintenant que de plus en plus, depuis une vingtaine d'années maintenant, on voit beaucoup d'herpès qui devrait être HSV1, qui devrait être au niveau buccal, arriver au niveau génital. Donc oui, lorsqu'on a des rapports bucogénitaux, si on a de l'herpès au niveau de la lèvre ou de la bouche, on peut très très bien transmettre à son ou à sa partenaire l'infection. Et globalement, on va avoir les mêmes symptômes que si on avait un herpès HSV2.
Merci à vous tous et à vous toutes pour vos appels et vos messages qui ont été nombreux aujourd'hui. On peut pas passer tout le monde à l'antenne, je suis désolée, mais il y aura certainement une prochaine émission où on pourra vous donner la parole. Vous écoutez donc Priorité Santé sur RFI et nous parlons des infections sexuellement transmissibles, IST, avec vous, professeur Nicolas Dupin. On a évoqué les différentes IST et leurs conséquences. En termes de prévention, comment se protéger des IST, encore une fois?
Alors il y a plusieurs outils, il y a plusieurs moyens de se protéger. Je dirais qu'il y en a un qui fonctionne relativement bien, c'est le préservatif. Le préservatif, c'est un moyen de se protéger contre pratiquement toutes les infections sexuellement transmissibles. Il y a quelques fois, les papillomavirus, les condylomes peuvent être non protégés si le préservatif ne recouvre pas la zone atteinte. Donc c'est sûr que le préservatif reste la meilleure façon de se préserver d'une IST. Le deuxième moyen, c'est ce qu'on voit se développer actuellement, les moyens modernes, je dirais, c'est la vaccination. Alors effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a certaines infections sexuellement transmissibles qui ont des vaccins très efficaces. L'hépatite B. Il faut vacciner contre l'hépatite B parce qu'on risque d'avoir, lors d'un rapport sexuel, une infection par le virus de l'hépatite B.
L'hépatite A. Qui fait partie du paquet, qui est un vaccin,
qui est recommandé. Mmh. Et voilà. Donc normalement, on le fait sans même le demander, on n'est pas en âge de résister à ce moment-là. Depuis maintenant une douzaine d'années, on a un vaccin contre les papillomavirus, donc les infections qui donnent des condylomes mais qui peuvent donner cancer du col de l'utérus. Mais sachez qu'en France, on a une couverture des jeunes femmes en âge d'être vaccinées de 30%. Là où en Australie, on a quasiment 100%, ou au Danemark 100%, ou au Portugal 80%. Et là où dans ces pays-là, on commence à voir une nette diminution des infections sexuellement transmissibles à papillomavirus. Donc ça, j'insiste sur cela. Et fort heureusement, il va falloir qu'on prenne conscience d'élargir aussi la vaccination aux jeunes hommes. Troisième chose maintenant, pour le VIH, et ça c'est maintenant depuis 4-5 ans qu'on voit ces papiers qui sont très très importants, et on voit les conséquences peut-être déjà dès maintenant en région parisienne, c'est ce qu'on appelle la PrEP. La PrEP, ça permet de prévenir le VIH. C'est vrai que ça diminue de près de 85-90% le risque d'être contaminé par le VIH lorsqu'on utilise pas régulièrement le préservatif, on prend un médicament. Alors c'est vrai que ça pose des questions, parce que c'est vrai que ça ne protège pas des autres maladies sexuellement transmissibles, et qu'il faut bien sûr faire un effort pour ne pas contracter d'autres maladies sexuellement transmissibles. Voilà les choses qui sont importantes à dire sur la prévention. Bien sûr, la prévention, c'est aussi savoir qu'on prend des risques. Si on prend des risques, il faut se faire dépister. Et si on a un nouveau ou une nouvelle partenaire, il faut savoir qu'avant de ne pas avoir de rapports protégés, d'avoir des rapports non protégés, il va falloir faire des tests pour savoir si effectivement vous pouvez arrêter le préservatif, tout en assurant pour la jeune femme une contraception pour avoir des rapports non protégés.
Selon les régions du monde où on se trouve, c'est quand même plus ou moins compliqué d'avoir accès à des méthodes de dépistage, soit parce que les tests sont coûteux, soit parce qu'ils sont inaccessibles d'un point de vue géographique aussi.
On est tout à fait d'accord, et c'est vrai que on a notre vision, je dirais, industrialisée européenne des choses, mais c'est pas forcément adaptable dans les pays où les accès aux soins sont beaucoup plus compliqués, et surtout les examens et les biologiques sont beaucoup moins adaptés et efficaces.
Et tout de suite, on va prendre la direction de la Guinée-Conakry.
Priorité santé sur RFI.
On retrouve le docteur Mohamed Massiré Souma. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue, vénéréologue au service de dermatologie MST du CHU de Donka de Conakry. Docteur Souma, quelles sont les principales IST que vous rencontrez en Guinée?
Alors merci Raphaël. Bonjour professeur Nicolas Dupin. Bonjour. Bonjour aimables auditeurs de RFI, pour cette opportunité que vous nous offrez. Alors, parlant des IST les plus courantes dans notre contexte, il faut savoir que c'est à peu près les mêmes IST qu'on rencontre partout, bien que les prévalences peuvent varier d'une région à une autre. Alors, classiquement, dans notre service, nous rencontrons beaucoup plus d'herpès génital. Il y a une infection à herpès simplex virus. Les condylomes génitaux également sont rencontrés, qui sont des infections à papillomavirus humain, comme l'a si bien dit le professeur Nicolas Dupin. Et peut-être un accent particulier sur ces condylomes génitaux, c'est que, et comme l'a dit le professeur Nicolas Dupin, ces virus à papillomavirus humain peuvent être, il y a certains types qui sont cancérigènes, donc qui peuvent causer le cancer du col de l'utérus, et qui est considéré actuellement comme un véritable tueur en série dans notre contexte, surtout dans les pays en voie de développement. Alors, les urétites gonocoxiques, à un moment, on a pensé qu'ils étaient rares, mais de plus en plus, on en rencontre en consultation. La syphilis de moins en moins, les chlamydioses également, et puis les trichomonoses. Mais il faut mettre quand même un accent particulier sur l'infection à VIH. Comme nous sommes dermatologues, au sein des collages du pain ne dira pas le contraire, la peau constitue un marqueur intéressant de l'infection à VIH, ce qui fait que le dermatologue est en avant et puis à toutes les étapes de prise en charge de l'infection par le VIH, il peut dépister cette infection à cause du fait que à la primo-infection, on a des signes cutanés. Au stade avancé de la maladie, il y a des manifestations dermatologiques, mais également, même au cours du traitement, les manifestations dermatologiques sont là. Donc, ce qui fait que le dermatologue se retrouve au centre de la prise en charge de cette infection par le VIH. Donc, globalement, voici les infections sexuellement transmissibles les plus couramment ou les plus fréquentes dans notre contexte d'exercice.
Docteur Souma, est-ce que les femmes et les hommes viennent facilement vous consulter?
Alors, et c'est ça un peu la différence avec les pays industrialisés. Chez nous, et les gens ne viennent pas toujours facilement comme cela devrait l'être. Et en effet, tout ce qui a trait au sexe est souvent considéré comme tabou dans notre communauté. Et très souvent, les patients viennent au stade où l'infection a déjà beaucoup évolué. Il faut aussi signaler que la prise en charge de ces infections se fait dans les structures périphériques et ce qui fait que nous ne recevons que souvent des cas qui sont spécifiques à la dermatologie. Alors, pour ce qui concerne les hommes, oui, parce que les signes, par exemple, quand vous prenez la gonococcie, dès qu'un homme est infecté par la gonococcie, c'est les jours qui suivent, il ne peut plus pisser ou bien il a des douleurs en urinant, ce qui fait que rapidement, il essaye de voir un personnel de santé. Mais de plus en plus, ces gens ont souvent recours à l'automédication ou bien ils essayent parfois de faire recours aux tradis praticiens, parce que dans notre communauté, la médecine traditionnelle tient une place importante et elle constitue souvent le premier recours de la plupart de la population.
Et justement, est-ce que ces recours entraînent des complications pour vous une fois que les patients viennent vous voir ?
Effectivement, et le fait que les patients ne consultent pas dès les premiers symptômes, cela peut les conduire à développer beaucoup de complications. Par exemple, quand vous prenez les herpès, l'herpès génital, l'infection à herpès simplex virus, souvent on peut recevoir des patients avec des ulcérations délabrantes, des condylomes génitaux. Parfois on reçoit des malades avec une évolution des lésions de plus de 10 ans, donc qui arrivent au stade de tumeur. Parfois, on voit de véritables tumeurs comme les tumeurs de Bruce-Lowenstein qui envahissent complètement les organes génitaux et qui, parfois, il faut absolument faire une chirurgie très délabrante.
Et alors, du coup, concrètement, comment est-ce que vous traitez les IST? C'est-à-dire, à quel type de traitement vous avez accès? Est-ce que vous pouvez prescrire des antibiotiques?
Alors, pour ce qui concerne le traitement, les traitements sont disponibles et sont efficaces. Et souvent, dans notre contexte, le fait que et le plateau technique pour dépister ces infections est parfois limité et l'Organisation mondiale de la santé a recommandé de faire une approche syndromique. Alors cette approche syndromique, c'est en quelque sorte une approche intégrée de prise en charge des IST qui va reposer sur l'identification de groupes cohérents de symptômes et de signes qui sont faciles à reconnaître et qui permettent de fournir un traitement approprié à la majorité des germes responsables du syndrome. Et donc, ces recommandations préconisent l'utilisation de cette approche qui va constituer une sorte de pari élargi associant des médicaments efficaces sur les germes susceptibles de causer les signes présents dans le syndrome. Donc, il existe actuellement des algorithmes qui constituent une sorte d'arbre décisionnel pour la prise en charge de ces IST qui sont utilisés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire dans notre pays. Et donc cette approche a des avantages certains, c'est qu'elle permet de concentrer sur le problème, notamment sur les symptômes, mais elle est très sensible aussi et ne passe pas à côté des infections mixtes.
Oui, ça évite les tests en laboratoire et l'idée c'est de mettre en place un traitement le jour même pour éviter que le patient ait à revenir en fait.
Effectivement. Mmh. Donc, on fait une association de plusieurs médicaments qui sont susceptibles de couvrir tous les germes qui peuvent être responsables du syndrome. Et donc, ça permet non seulement de traiter efficacement les patients, mais aussi d'éviter de les perdre. Et parce que dans cette approche aussi, il faut savoir qu'on essaie de s'intéresser aussi aux partenaires parce que comme on le dit souvent, une infection sexuellement transmissible se traite au moins à deux.
Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que lorsque vous traitez un patient, est-ce que vous traitez systématiquement son partenaire?
Alors, c'est systématique. Nous le faisons systématiquement, mais comme vous le savez, et souvent, quand vous essayez de faire un counseling à une patiente ou à un patient, alors le fait de ramener son partenaire, si c'est par exemple une infection sexuellement transmissible banale, c'est facile, mais quand il s'agit par exemple du VIH, souvent c'est compliqué. Le fait que le VIH a une connotation particulière dans notre communauté. Mais sinon, pour ce qui concerne les autres infections sexuellement transmissibles, systématiquement, nous traitons les partenaires, mais aussi les partenaires des partenaires. Parce que pour être efficace, il faut rompre la chaîne de transmission. Parce qu'on ne sait jamais, n'importe qui peut se retrouver dans la chaîne. Et donc, il est important, quand on a un patient qui développe une infection sexuellement transmissible, de le traiter, mais aussi de traiter son partenaire ou sa partenaire, mais aussi les partenaires des partenaires.
Merci beaucoup, docteur Mohamed Massiré-Souma, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes dermatologue vénéréologue au service dermatologie MST du CHU de Donka de Conakry.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Professeur Dupin, on vous retrouve vraiment pour la dernière partie de notre échange. Très rapidement, est-ce que vous voulez réagir à ce que nous a dit le docteur Souma ?
Mais j'ai trouvé que c'était passionnant et c'était un résumé complet de tout ce que je considère comme nos missions, nous de dermatos et de vénérologues. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce qu'il a dit sur le rôle du dermatologue encore pour le dépistage des infections précoces du VIH, puisque le VIH peut avoir des manifestations cutanées à la fois révélatrices mais également évolutives dans le cours de l'évolution de la maladie. Donc je pense que c'est très important qu'il ait insisté également sur un point qui est bien sûr, faute de moyens, on a une approche syndromique, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire il y a les ulcérations, il y a les écoulements, et ils ont, sans avoir besoin de rechercher tous les germes et de développer des moyens coûteux, on peut traiter avec un algorithme relativement simple et un arbre décisionnel. Et puis la troisième chose, le message, c'est une MST, ça se traite à deux, voire à trois, voire à quatre. La chaîne est très importante parce qu'il faut interrompre, bien sûr, la transmission.
Professeur Nicolas Dupin, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de dermato-vénérologie à l'hôpital Cochin et directeur du centre de santé sexuelle de l'Hôtel Dieu à Paris.
Merci beaucoup.
Ensuite, on vous retrouve Catherine Solano, médecin sexologue, pour répondre aux questions des auditeurs. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël.
Et le premier auditeur, c'est Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Le docteur Solano est à mes côtés. Quelle est votre question ?
Ma question, c'était par rapport à l'excitation masculine. Mm-hmm. Je voulais savoir, est-ce que le liquide pré-éjaculatoire pouvait contenir, par exemple, des spermatozoïdes ? Qui pourrait entraîner une grossesse chez la femme. Mmh. C'est ça ma préoccupation.
Tout d'abord, docteur Solano, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs ce qu'est le liquide pré-éjaculatoire ?
Eh bien, le liquide pré-éjaculatoire, je dirais, c'est le troisième liquide. Quand je veux dire ça, c'est-à-dire que quand vous avez un pénis, souvent, si on vous demande quels liquides peuvent sortir de votre pénis, vous allez dire de l'urine ou du sperme. Et en fait, il y a un troisième liquide, c'est le liquide pré-éjaculatoire qui sort... Dès que l'érection commence à être suffisamment forte, il y a un liquide qui sort doucement, ça s'appelle le liquide pré-éjaculatoire, donc parce qu'il est, il vient avant l'éjaculation, mais quand il y a une érection.
Et à quoi sert ce liquide ?
Alors, il a deux rôles. Le premier, c'est de nettoyer. Parce que dans le pénis, imaginez un homme, il a uriné dans l'après-midi. Il veut faire l'amour le soir. Dans son urètre, il va rester un petit peu d'urine. Très, très peu. Mais c'est toxique pour les spermatozoïdes. Du coup, ce liquide pré-éjaculatoire, il va nettoyer l'urètre contre l'acidité de l'urine. Et puis, son deuxième rôle, c'est qu'il aide à la pénétration. C'est un petit peu un lubrifiant qui va aider à bien faire glisser au moment de la pénétration.
Alors, Patrick, demande donc si ce liquide peut contenir des spermatozoïdes. Pourquoi cette question ? Est-ce que ça change quelque chose qu'il en contienne ou non ?
Mais oui, on a bien entendu ce que disait Patrick. En général, c'est une question que posent les couples qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils n'utilisent pas de contraception. Et est-ce que c'est votre cas, Patrick ? Est-ce que c'est pour ça que vous vous posez la question ?
Non, c'est pas qu'on ne veut pas d'enfants, mais c'est qu'on ne veut pas d'enfants tout de suite.
Voilà, d'accord. Ok, je comprends. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de couples qui se disent, pas tout à fait comme vous, mais qui se disent, si dans le liquide pré-éjaculatoire, il n'y a pas de spermatozoïdes, alors l'homme peut peut-être faire une pénétration à l'intérieur du vagin et se retirer avant l'éjaculation et du coup, il n'y aura pas de risque de grossesse. Et en fait, c'est une erreur parce que c'est quand même un risque. Pourquoi ? Parce que le liquide pré-éjaculatoire, bien sûr, il ne contient pas de spermatozoïdes. Ça, c'est certain. Mais il peut entraîner des spermatozoïdes qui se trouveraient déjà présents dans l'urètre. C'est-à-dire que quand on fait une pénétration sans préservatif et sans contraception, il y a un risque de grossesse, même s'il n'y a pas d'éjaculation du tout. Et d'ailleurs, je vais vous donner le chiffre, parce que ça a été étudié. Pour 100 couples qui utilisent ce qu'on appelle le retrait, donc se retirer avant l'éjaculation pendant un an, il y a 27 grossesses, donc plus d'un couple sur 4. Donc c'est quand même une contraception à haut risque. Cela dit, faut quand même un petit peu être réaliste, c'est que sans contraception du tout, on n'a pas 27 grossesses, on en a 85 dans l'année. Donc c'est beaucoup plus. Je vais insister aussi sur un autre aspect, c'est que vous, Patrick, vous êtes en couple stable et vous avez envie d'avoir un enfant dans quelques temps, mais il faut savoir que le liquide pré-éjaculatoire peut transmettre toutes les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-SIDA. Donc c'est hors de question de se dire on fait une pénétration, on se retire, on met un préservatif et on recommence jusqu'à l'éjaculation. Là, il y a un risque pour le VIH. Donc je pense que je vous ai bien tout expliqué là.
Okay.
Merci pour votre question, Patrick. On vous souhaite une bonne journée. Et voici, Catherine, une question Facebook que nous pose Abdra, qui nous écrit « Chez moi, en Guinée, avec les maladies sexuellement transmissibles, on est obligé d'utiliser les préservatifs. Or, avec les préservatifs que nous utilisons, parfois, on n'a pas la même sensation. Je voudrais savoir s'il y a d'autres solutions plus modernes que les préservatifs. »
Alors, d'abord, je voudrais dire bravo à Abdra, parce que quand il dit « on est obligé d'utiliser les préservatifs », je trouve ça fort formidable, ça veut dire qu'il a tout compris sur la santé sexuelle, que c'est important pour lui et pour sa partenaire. Et tout le monde n'en est pas là, malheureusement. Donc, et d'autre part, je trouve que c'est honnête aussi de dire que le préservatif, bah, c'est pas forcément toujours agréable, même si c'est très important. Donc, je dirais qu'il y a trois solutions, en fait, pour prévenir les infections sexuellement transmissibles tout en étant moins désagréable. Alors, la première, c'est d'utiliser quand même le préservatif et de mettre une toute petite goutte de lubrifiant à l'intérieur du préservatif, parce que pour l'homme, quand ça le serre trop ou que c'est désagréable, ça peut être beaucoup, beaucoup plus confortable. Même s'il faut surtout pas en mettre trop, sinon il va glisser sur le pénis, ça sera plus efficace. La deuxième solution, c'est le préservatif féminin. C'est très différent du préservatif masculin, ça donne pas les mêmes sensations, mais c'est pas parfait non plus, mais ça peut valoir le coup de changer parce que c'est différent. En plus, on peut le mettre bien avant l'érection. Ce qui fait qu'un homme a pas peur, comme on dit, hein, de débander au moment de le mettre, le préservatif. Parce que c'est plus, du coup, c'est plus confortable pour lui psychologiquement aussi. Et il est pas serré dans le préservatif. Bah, la troisième solution, eh bien, c'est d'avoir des rapports sexuels sans pénétration. Donc, avec des caresses manuelles, mais sans pénétration vaginale, anale ou buccale. Ça peut paraître bizarre, mais il y a pas mal de couples qui utilisent ça comme méthode, j'irais, de contraception pour éviter de prendre des risques, hein, y compris de grossesse. Par exemple, des couples très jeunes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel, qui n'ont pas facilement accès à la contraception ou préservatif, ils peuvent avoir beaucoup de plaisir sexuel comme ça. Et je vois aussi pas mal de couples de plus de 50 ans où je pense que les hommes ont des fois un peu peur de pas avoir des bonnes érections. Ils disent finalement, on peut se donner du plaisir comme ça, on n'a aucun risque, pourquoi pas. Et puis, je vais encore rajouter une chose, une information, c'est qu'on sait que maintenant les personnes qui sont bien traitées pour le VIH-SIDA, à certaines conditions, peuvent ne plus transmettre le virus. Donc c'est une raison de plus aussi pour vraiment se faire dépister et traiter, parce que maintenant les traitements sont très au point et évitent la transmission. Et certaines personnes séropositives peuvent avoir des rapports sexuels sans préservatif aujourd'hui.
Merci à tous pour vos appels et vos questions. Merci à vous, docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes médecin sexologue. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cétous Amaké, Ophélie Lassen, Juliette Brault et Didier Bleu à la réalisation. Demain, vous retrouverez Caroline Paré pour une émission sur la santé au Sud. On vous donne rendez-vous à 9h10 en temps universel. À demain et bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.